Ponson du Terrail, La Fée, Conte de Noël. Premier chapitre, Les trois pièces d'or, dans le château de mon grand-père. N'allez point croire, mes jeunes amis, que mon aïeul fut un grand seigneur. C'était un pauvre soldat, estimé de tous, parce qu'il était brave, que j'aimais, moi, avec vénération et respect, parce qu'il était bon. Son château était vieux et pauvre comme lui, les dorures y étaient rares et ses murs lézardés ressemblaient assez bien à ce manteau troué et râpé dans lequel se drapent si orgueilleusement les mendiants espagnols les plus fiers et les plus nobles du monde. Heureusement, Dieu, qui rétablit toujours l'équilibre, avait caché quelques-uns de ces trous sous les festons d'une vigne grimpante et d'un lierre vert. Il lui avait donné pour ceinture une prairie où courait un ruisseau causeur, pour toiture un ciel bleu et la chaîne des Alpes pour majestueux horizon. Dans le château de mon grand-père, il y avait une vaste salle où flambait l'hiver un large feu. Au coin de ce feu, assis dans de vieux fauteuils de cuir à clous dorés, se trouvaient chaque soir un vieillard et un enfant. Le vieillard avait l'esprit jeune, la mémoire excellente, la verve facile. Il racontait de belles histoires des temps passés, pleines de nobles actions, de hauts faits héroïques et d'humbles traits de vertu. L'enfant écoutait avec un recueillement profond. Ce vieillard était mon grand-père, et cet enfant, c'était moi. La soirée se prolongeait ordinairement de 7 à 10 heures. À 10 heures, mon grand-père demandait sa canne et son bougeoir et se retirait. Moi, je demeurais parfois encore une demi-heure au coin du feu, rêvant comme on rêve à 12 ans, l'œil fixé sur les bizarres peintures de la braise qui se métamorphosait sans cesse, tantôt en palais, souvent en chaumière, jetant çà et là une petite flamme bleuâtre que je me figurais être une bonne fée mutine et souriante, et dont le reflet indécis et fauve allait se jouer et jeter un éclat fantastique à la vieille tapisserie à un personnage décoloré qui tendait les murs. Un soir, mes jeunes amis, c'était la veille de Noël, il faisait bien froid, je vous jure, la neige couvrait la prairie, le vent pleurait dans les cheminées, et dans les sapins frissonnants, et mon grand-père, qui avait maintes blessures et des rhumatismes, avait demandé qu'on chauffât son grand lit à rideaux de serge. Dans la grande salle, il y avait une grande horloge. Cette horloge avait sonné 11 heures, et cependant j'étais encore auprès du feu, tout seul, rêvant délicieusement, et faisant main castel en Espagne. Car j'avais dans la main 3 pièces fauves, jaunes, brillantes, que je considérais à la lueur tremblante du foyer, avec une joie indicible. C'étaient 3 pièces d'or. Mon grand-père venait de me les donner en me disant « L'année dernière, à pareille époque, je te donnais des jouets. Cette année, je préfère te laisser choisir toi-même. Tu iras à la ville demain avec Pierre et tu achèteras ce que tu voudras. Réfléchis bien. » Mon grand-père avait sans doute une arrière-pensée en agissant ainsi. J'étais donc à réfléchir, et comme la laitière du Bon La Fontaine, j'hésitais entre l'achat d'une ferme et l'acquisition d'un palais, le tout pour 60 francs. Je m'arrêtai d'abord à un fusil, un vrai fusil avec lequel je pourrais tuer des lapins dans la garenne et des poules d'eau dans les fossés. Puis je songeais que j'en avais déjà un, et je me demandais si je ne ferais pas bien d'opter pour un équipement de pêcheur, de me fournir d'hameçons, de lignes et de filets. Puis encore, des filets, je passais à une barque, à une belle barque neuve, peinte en vert et en jaune, avec une voile échancrée et qui ferait merveille à coup sûr dans la rivière qui passait à 500 pas du château. Puis enfin, et certes j'aurais dû commencer par là, je me souvins que j'avais vu à l'étalage d'un libraire de beaux livres reliés en maroquin, dorés sur tranches et renfermant une foule de choses beaucoup plus belles que leur reliure. Le fusil, les filets, la barque luttèrent bien une minute contre cette quatrième et plus sérieuse fantaisie, mais enfin les livres l'emportèrent et mon choix eût été définitivement arrêté si je n'eusse vu tout à coup un des tisons du foyer jeter une petite flamme bleue. Cette flamme grandit peu à peu et éclaira bientôt le foyer tout entier et la salle ensuite. Je fermai les yeux, ébloui, et quand je les rouvris, la flamme avait disparu. Mais à sa place, devant moi, je vis une belle jeune fille dont la vue m'arracha un cri d'admiration. « Oh, si vous voulez vous la figurer, bien exactement, mes jeunes amis, regardez votre sœur aînée, votre sœur de 15 à 16 ans, dont l'œil est rêveur, la bouche un peu sérieuse. Ou bien envisagez le portrait de votre mère, peinte à 18 ans, de votre mère qui pressentait déjà, sans doute, les petits chagrins, les soucis que vous lui causeriez, et dont le front commençait à se voiler d'une mélancolie pensive. » Quand sa lèvre avait encore le frais et bon sourire, le sourire naïf et joyeux de la jeunesse. Elle avait des cheveux blonds, de grands yeux bleus rêveurs et bien doux, une petite main rosée, diaphane, qu'on eût volontiers baisée respectueusement un jour tout entier. Elle était vêtue de blanc comme les anges du paradis, et sa tête portait une couronne de bluets de marguerite qui embaumait l'air autour d'elle. Elle vint à moi, souriante, effleurant à peine le parquet de son petit pied, et elle mit sa main blanche sur mon épaule. « Je suis la fée de Noël, me dit-elle, et j'apporte aux enfants les jouets bien plus beaux que ceux qu'ils veulent acheter. » Je la regardai avec étonnement. « Puisque je suis la fée, poursuivit-elle, je puis tout savoir. » « J'ai vu ton hésitation et je suis venu pour te conseiller. Peux-tu venir avec moi ?»« Oh oui !» lui dis-je enthousiasmé. « Nous allons à la messe de minuit. Viens !» Je pris mon manteau et ma casquette et je la suivis. Nous traversâmes sans bruit les corridors. Nous arrivâmes à la porte d'entrée qui s'ouvrit sans grincer. Et Lord Eben, le grand chien noir qui veillait la nuit, nous laissa passer sans murmurer. Il y avait sur la terre, ainsi que je vous l'ai déjà dit, un épais manteau de neige. Les arbres ressemblaient, tant ils en étaient chargés, à ces forêts de sucre cristallisé que les confiseurs étalent au jour de l'an. Mais il ne faisait plus froid, car la fée semblait jeter autour d'elle une douce chaleur, et le vent, à sa vue sans doute, s'était apaisé et réfugié dans les noires forêts qui lui servent d'asile pendant les beaux jours. La neige se durcissait sous nos pas et la lune éclairait notre route. Le village était éloigné d'une demi-lieue, mais nous allions d'un pas rapide et nous eûmes bientôt atteint ses premières maisons. D'humbles chaumières couvertes de paille, bâties à pierre sèche, cimenté d'argile et abritant de pauvres laboureurs qui avaient bien de la peine à gagner pendant l'été du pain pour manger tout l'hiver. « La messe n'est point sonnée, me dit la petite fée de Noël, qui me tenait toujours par la main. Entrons un peu chez le père Jean, je vois de la lumière à travers les herbes moulues de sa porte. » Le père Jean était un vieux soldat qui avait servi sous les ordres de mon grand-père et qui n'avait plus qu'une jambe. Il était pauvre et n'avait pour vivre que son métier et le travail de sa fille, une belle jeune fille, vertueuse et pleine de courage, que Dieu lui avait envoyée comme l'Antigone d'Œdipe ou la Malvina de Fingal pour étayer ses vieux ans de sa verte jeunesse. Le père Jean tressait des corbeilles avec les ajoncs de la rivière et rempaillait les chaises grossières du village. Sa fille travaillait au champ. Nous entrâmes dans la cabane, la fée invisible pour ses hôtes, bien entendu. La fée se manifestait à moi seule. Le père Jean était couché et se plaignait douloureusement. L'hiver était une rude saison pour lui. Le tronçon de sa jambe le faisait horriblement souffrir. Ses blessures se rouvraient parfois. Il était souvent des mois entiers dans l'impossibilité de travailler. Ce jour-là était le 20e que le père Jean passait dans son lit. « Regarde et réfléchis bien !» me souffla la fée à l'oreille. Je regardai en effet et je vis qu'il n'y avait sur la table qu'un pot d'eau glacée au lieu de vin, dans le feu que de maigres tisons, dans la huche que du pain noir et en petite quantité. J'avais toujours dans la main mes 3 pièces d'or. Je les considérais furtivement à la lueur du foyer. Je vis briller sur l'une l'effigie de Napoléon, et je la mis dans la main du vieux soldat qui pleura d'attendrissement et m'appela son fils. « Viens, me dit la fée de Noël en m'entraînant. Nous sortîmes. La messe n'était point sonnée encore, et tout près de l'église, il y avait une autre chaumière également éclairée. « Frappe et entrons, me dit la fée. C'était la chaumière de Marthe, la veuve, une pauvre femme dont le mari, chasseur de chamois, s'était tué dans un ravin l'année précédente, lui laissant 5 enfants, un champ bien petit et une maison qui lui semblait bien grande et bien vide maintenant. Les laboureurs du village, prenant en pitié la détresse de la veuve, s'étaient réunis pour cultiver son champ à tour de rôle. Mais l'année avait été rude, les pommes de terre avaient manqué et le chanvre était de mauvaise venue. Marthe était au coin de son maigre feu, entourée de ses jeunes enfants qui avaient revêtu leurs pauvres habits du dimanche pour aller assister à la naissance de l'enfant Dieu. Il dévorait, en attendant, une galette de blé noir, et ils m'en offrirent, les chers enfants du bon Dieu. Et comme lorsqu'il venait au château, il partageait mes jeux et mes tartines beurrées, j'acceptais ma part de leur grossier gâteau. « Ils n'auront pas le jouet de Noël, » me dit la petite fée tout bas. J'ouvris ma main et je considérai ma 2e pièce d'or. Elle portait l'empreinte du roi Louis XVI. Louis XVI que l'on avait appelé d'abord Louis le Désiré avant qu'on lui donnât le nom de roi martyr. Je me souviens de 1000 traits de noble charité que mon grand-père, qui avait eu l'honneur d'être au nombre des officiers de sa maison, m'avait compté durant nos soirées d'hiver. Et je laissais tomber mon Louis XVI dans le tablier de Rose, la plus jeune des enfants de la veuve. « Viens à l'église, » me dit la fée. « Il me reste 1 pièce d'or, » murmurai-je. « Viens toujours, » fit-elle avec un sourire. Nous entrâmes dans l'église, dont tous les cierges brûlaient, dont l'autel avait revêtu sa plus fine et plus blanche nappe, et au lieu de me laisser asseoir au vieux banc seigneurial où je me plaçais d'ordinaire, la fée m'entraîna jusqu'à la sacristie, où le curé s'apprêtait à se couvrir de la chasuble dorée qui servait au jour solennel. C'était un bon vieux prêtre, mettant en pratique l'évangile, la providence des pauvres, le père des orphelins, le soutien des veuves, le consolateur de tous. Il m'avait baptisé, il m'avait fait apprendre les premières pages du catéchisme et enseigné la première déclinaison latine. « Demande-lui, » me dit la fée bien bas, « pourquoi, la veille de Noël, il a une soutane usée ?» J'allais vers lui. « Bon, monsieur le curé, » lui dis-je, « bon papa, ne vous a-t-il pas donné le mois dernier un peu d'argent en vous disant « c'est pour une soutane neuve ?»« Oui, mon ami, » me répondit naïvement le pasteur. « Mais le lendemain, Marguerite Dubois, tu sais la petite Marguerite, épousait Pierre le berger, eh bien... Mon enfant, Marguerite n'avait pas de robe assez neuve pour se marier, et je pensais que, toute vieille qu'elle était, ma soutane pourrait aller jusqu'à Pâques prochaine. La 3e fois, j'ouvris ma main, et j'examinais ma troisième et dernière pièce d'or. Elle était à l'effigie du roi Charles X. Quelques jours auparavant, j'avais vu grand-père pâlir en lisant un numéro de la quotidienne, puis verser des larmes silencieuses et brûlantes en le laissant tomber à terre. Et comme effrayé, je lui avais demandé pourquoi il pleurait, il m'avait répondu « Je pleure mon vieux roi qui vient de mourir dans l'exil. » Charles X était mort sur la terre étrangère. « Monsieur le curé, dis-je en prenant alors une voix câline, vous savez que chaque année, le jour de la Saint-Charles, bon papa avait coutume de venir à la messe avec son plus bel habit. Cette année, nous aurons une messe de mort au lieu d'une messe de fête. Et bon papa serait bien mécontent si vous célébriez cette funèbre cérémonie avec une vieille soutane. Allez, tenez, voici 20 francs que je vous prête. Si cela ne suffit pas, je demanderai de l'argent à ma mère. Vous me rendrez cela plus tard, quand vos pauvres auront ce qu'il leur faut. » Le vieux prêtre me prit dans ses bras et me dit avec émotion « Oh, que Dieu te bénisse, mon enfant, comme je te bénis moi-même !» Je me retournai, tout fier, pour chercher du regard l'œil ami de la petite fée de Noël. La fée avait disparu.